SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Hi, I'm Janice Peterson from SBS World News. And I'm here to help you improve your English pronunciation. This short lesson is only about 5 minutes, so you can easily fit it into your day. Perhaps on your lunch break.
SBS Learn English helps Australians speak, understand and connect.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, troisième partie de notre mini-série consacrée à l'histoire du programme Vacances-Travail. Dans celui-ci, on va se demander pourquoi ce type de titre de séjour est aussi populaire auprès des jeunes du monde entier et notamment auprès des jeunes Français. On démarre tout de suite avec, comme d'habitude, l'historien Romain Fati. Je voulais un peu revenir là-dessus sur certaines choses que vous avez dites, notamment sur la manne que représentent ces jeunes qui viennent en Australie pour l'Australie et pour l'économie australienne. Et d'un autre côté, donc ce programme est extrêmement populaire auprès des jeunes Français, mais pas que. Une popularité qui est entretenue, entre autres, par tout un tas de vidéos sur les réseaux sociaux qui présentent non seulement le pays très beau, les animaux, etc., mais aussi un peu un Eldorado où, en gros, on trouve du boulot en quelques jours à peine et on peut gagner très, très gros, très, très vite. Donc, c'est un pays où on vous le présente, vous allez avoir des vacances incroyables. Et en plus, en rentrant chez vous, vous aurez quelques milliers d'euros de plus sur votre compte. Pourtant, vous le disiez tout à l'heure, les PVT, les jeunes en PVT en Australie, c'est un gain de 3 milliards de dollars pour l'économie australienne. Et en fait, il y a des études qui ont montré que ces jeunes, l'essentiel de l'argent qu'ils gagnent ici, en fait, ils le dépensent en Australie.
Oui, c'est tout à fait vrai. Bon, après, il faut bien couvrir ces dépenses de la vie de tous les jours. Mais si vous revenez au pays avec 20 ou 30% de ce que vous avez gagné sur un an, quand vous avez 18, 19, 20, 21 ans, c'est quand même pas mal d'argent. Alors, il y a mythe et il y a réalité. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des belles images sur les réseaux sociaux. Après, ça va dépendre du nombre d'heures et de l'industrie dans laquelle vous travaillez, comment vous logez, si vous êtes économe ou dépensier, parce que si vous faites vendredi, samedi, dimanche, soir, toutes les semaines et que vous claquez votre argent durement gagné dans les bars et les nightclubs que l'Australie peut vous proposer, effectivement, vous allez être dans le rouge assez rapidement. Mais là où c'est, ou du moins pour la perception française, là où c'est plutôt avéré, c'est que, en fait, c'est un pays que nous qualifierions de libéral, où vous avez une ultra-flexibilité. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression d'être dans un pays de plein emploi. Alors, le taux de chômage est effectivement bien inférieur à celui de la France, à 4,3% en ce moment. Et c'est hyper flexible. C'est-à-dire que l'histoire d'un CDI ici, ça n'intéresse personne. C'est pas grave. D'ailleurs, vous êtes mieux rémunéré quand vous êtes en contrat contractuel, comme en France d'ailleurs, que quand vous êtes en CDI. Parce que, en fait, si votre employeur vous traite mal, vous quittez tout simplement. Et donc, en fait, c'est une flexibilité des deux côtés. Si vous ne travaillez pas, on va vous dire, écoute, c'est pas la peine de revenir demain. Bonne journée. Et ça, la loi australienne vous l'autorise dans un contrat dit casual. Ce qui est la majorité des contrats, d'ailleurs, pour les visas vacances-travail, puisque une des règles du contrat, c'est que vous n'avez pas le droit d'être dans un poste permanent, dans un CDI. Vous devez être sur un contrat court ou alors sur un contrat dit casual, c'est-à-dire où vous avez un certain nombre d'heures qui vous sont offertes par semaine, mais ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et donc, vous avez cette ultra-flexibilité qui plaît beaucoup aux jeunes parce que vous pouvez aller d'une entreprise à une autre, d'une ferme à une autre, tout en continuant vos voyages, parfois vous allez travailler 40 heures pendant une semaine et puis la semaine suivante, ce sera que 2 ou 3 heures et ça leur convient tout à fait. Vous avez cette flexibilité donc qui est sur le plan horaire, vous avez la flexibilité contractuelle et par ailleurs, vous avez le fait que Quand vous êtes sur des contrats courts ou des contrats dits cajants, vous êtes très correctement rémunéré dans la mesure où les taux d'imposition sont assez différents en Australie et où effectivement, comme la vie est beaucoup plus chère, ce que parfois les gens ne se rendent pas bien compte, les salaires ont l'air très attractifs. Si on vous dit que vous allez ramasser des poireaux pour 25 euros net par l'heure, effectivement, ça va faire rêver pas mal de personnes qui sont payées peut-être 7 ou 8 euros en saison. Je ne sais pas, mais j'imagine que le prix est bien inférieur, peut-être 12 ou 13, mais enfin, bien inférieur à la réalité sur le terrain en Australie. Donc, effectivement, vu de la France, on peut se dire numérairement, oh là là, c'est super attractif. Ça a l'air d'être des salaires quand même très importants et compétitifs. Oui, certes, mais faites attention parce que la vie sur place est beaucoup plus chère, d'une part, et d'autre part, comment dirais-je, le travail qui va devoir être produit est généralement physique. Donc, si par exemple vous êtes payé à la tonne plutôt qu'à l'heure, ben oui, mais enfin, il va falloir la ramasser, la tonne. Et donc, finalement, vos dollars peuvent fondre au soleil parce que la mesure de comment ils sont accordés va être différente de celle qui vous est présentée. Après, voilà, ça dépend vraiment des industries, ça dépend aussi des qualifications. Ce que j'aimerais rappeler, c'est que généralement, la plupart des emplois bien rémunérés en Australie, ce sont des emplois qui demandent certains types de qualifications. Et généralement, ce n'est pas le cas des emplois demandés par les employeurs pour les visas vacances-travail.
Alors, vous avez mentionné quelques chiffres tout à l'heure. Vous disiez que quand le programme a débuté il y a 50 ans, on avait 2000 jeunes qui étaient venus en Australie. Aujourd'hui, en tout cas, les chiffres les plus récents pour l'année 2023-2024, on était au-delà de 250 000. C'est proche, très proche, à vrai dire, d'un record qui a été établi en 2012-2013. Et ce qui m'a surpris, c'est que après les Britanniques, pour le coup, je peux comprendre qu'il y a un lien historique, culturel assez fort avec l'Australie. Le deuxième contingent de jeunes le plus important, et pas seulement l'année dernière, mais ça fait en fait des années que c'est déjà le cas, c'est les Français. Il y en a à peu près 25 000 qui viennent chaque année. Comment expliquer un succès pareil auprès de Français pour un pays qui est quand même à l'autre bout du monde et avec lequel il y a a priori aucune connexion particulière?
C'est une très bonne question, Grégory. Alors, c'est vrai que les Britanniques sont premiers, surtout, ils sont premiers de loin si on ajoute la Grande-Bretagne avec en plus l'Irlande, qui est aussi son propre pays. Mais les Français arrivent donc numéro 2, c'est à peu près 10% du contingent des visas vacances-travail. Et la France fait partie des nations sur laquelle il n'y a pas de quota. C'est-à-dire que pour certains pays, vous avez un quota. Pas plus de 5 000 Chinois en visa vacances-travail, pas plus de 5 000 Indonésiens de mémoire, pas plus de 3 400 Espagnols. Enfin, il y a tout un tas de pays qui ont des quotas. La France, de mémoire, n'en fait pas partie, ou alors le quota est tellement haut qu'il n'est pas atteint. Parce qu'effectivement, il y a.
Confirme qu'il fait partie des pays sans quota. Oui.
Voilà. Et donc, merci pour cette confirmation. Et donc, ce qui se passe en réalité, c'est que on est un contingent très fort. Pourquoi? Pour tout un tas de raisons. Je pense qu'une des premières raisons, c'est le fait que ce soit un pays destination rêve, c'est-à-dire Australie, Nouvelle-Zélande, Polynésie française. Enfin, ça fait partie des lieux sur Terre que l'on conçoit depuis un assez jeune âge en France comme des espaces de découverte merveilleux, avec les koalas, les kangourous, les palmiers, les mangues, la grande barrière de corail. Donc, on véhicule tout cet imaginaire vis-à-vis de l'Australie depuis petit. On est socialisé avec, qu'on le veuille ou non. C'est pas, voilà, c'est pas la culture américaine qu'on voit au cinéma, à la musique, etc. Mais enfin, ça demeure assez présent. En France, on y est exposé assez tôt. Donc déjà, il y a l'imaginaire, il y a le fait que ce soit un pays dit safe, hein, dans lequel on est en sécurité, c'est-à-dire que contrairement à certains pays dans le monde où Partir faire du tourisme peut être dangereux. Donc, il y a le fait que ce soit aussi sécurisant pour les parents, parce que les visas vacances-travail, certes, ce sont des adultes, mais quand vous avez 21, 22, 23 ans et que vous partez au bout du monde, je pense que c'est beaucoup plus sécurisant pour papa-maman que vous partiez en Australie, je sais pas moi, qu'au Pakistan, par exemple. Bref. Et puis, il y a aussi le fait que ce soit un pays de langue anglaise. Et pour de nombreux jeunes qui font le visa vacances-travail, c'est important parce que un des buts, en plus du tourisme, en plus de la découverte de soi et des autres, et en plus de gagner peut-être un peu d'argent, ça va être l'apprentissage de la langue. Alors, est-ce que c'est une recette qui fonctionne? Généralement, pas tellement, parce que vous retrouvez dans des backpacks où la langue la plus parlée va être l'espagnol, ou l'italien, ou le français, et que finalement vous restez entre vous, et que la progression en anglais, si elle n'est pas, nécessairement, elle sera pas inexistante, mais elle peut être limitée si vous ne faites pas vraiment l'effort d'essayer de parler avec des Australiens, d'être avec eux. Or, le type de travaux sur lesquels vous allez être poussé, les fermes ou le BTP, généralement, ça crée une certaine barrière, en fait, parce que, voilà, vous êtes dans les professions où il y a besoin de migrants, comme ça se voit en France, dans certaines professions, comme ça se voit dans tout un tas d'autres pays. C'est-à-dire que si on a besoin de vous, c'est pas gratuit. C'est pas pour que vous alliez puissiez passer du temps à la plage. Ça, c'est l'avantage qu'on vous promet à côté d'un travail pour lequel on n'a pas trouvé d'Australien. Et d'ailleurs, ça, c'est comment dirais-je, c'est assumé hein, par le gouvernement. C'est-à-dire que les gouvernements australiens font très attention à ce que la main-d'œuvre des visas vacances-travail ne soit jamais en compétition avec des Australiens qui chercheraient un emploi. Et donc c'est pour ça qu'on la dirige vers les régions, vers l'agriculture, vers le BTP, où il y a du mal à recruter. Et enfin, je pense que ce qui attire beaucoup aussi les jeunes Français, c'est le côté jeune et dynamique de l'Australie, où en plus du travail, en plus des vacances, vous allez pouvoir sortir, faire la fête et vous amuser, ce qui est normal à cet âge.
Here to help you thrive in your new life in Australia by covering topics from education, housing, finance, lifestyle and more. Australia Explained by SBS is here to help brave new locals navigate life. For helpful weekly articles, podcasts, and videos, search online for Australia Explained by SBS.
Alors, on va rester un peu plus sur les jeunes Français en Australie parce qu'ils n'y ont pas toujours eu très très bonne réputation et pas parce qu'ils râlent ou ils font grève plus souvent que les autres jeunes venus d'ailleurs. Mais ça remonte à quelques années, je voudrais que vous m'expliquiez deux choses. D'abord, à quoi font référence les Australiens quand ils parlent de French shopping? Et est-ce que vous pouvez nous dire ensuite pourquoi le consul général de France en Australie en 2013 s'est fendu d'une lettre ouverte dans le Sydney Morning Herald?
Vous me rappelez des controverses qu'on aurait préféré oublier, cher Grégory. Alors, le French shopping, c'est une appellation ironique pour dire vol à l'étalage, hein. C'est-à-dire qu'au lieu de payer, vous faites du French shopping, c'est-à-dire que vous vous promenez et puis vous prenez ce qui vous intéresse, vous le mettez dans votre poche, dans votre manteau et vous partez. Donc c'est très grave hein, et c'est pas anecdotique. De mémoire, cette année-là, donc il s'agit de 2013, enfin, dans ces eaux-là, 2013-2014, je crois qu'il y avait eu plus d'une vingtaine de Français arrêtés pour des cas de vol à l'étalage. Alors, il n'y a pas que la communauté française hein, qui fait ça. Les Australiens l'ont dit, hein, ils voulaient pointer le doigt contre personne. Mais c'est vrai que pendant ces années-là, s'est établie une réputation que certains backpackers français sous le visa vacances-travail n'étaient pas nécessairement très respectueux de la loi, soit par des petits larcins, Donc, on va voler des pâtes ou une bouteille d'alcool ou voilà, ou un t-shirt qui nous plaît, soit par des situations de non-respect des forces de l'ordre, parce que beaucoup d'alcoolisation, des tapages nocturnes, etc. Et effectivement, il se trouve qu'un des groupes qui a été le plus mis sous le projecteur de ces petits larcins et de ces comportements antisociaux, était les Français. Et ça a causé pas mal de préoccupations, surtout pour les services français sur place, à savoir l'ambassade et le consulat général, parce que effectivement, ils doivent s'occuper de ces Français en difficulté. Parfois, c'est pas tout à fait de leur faute, et puis parfois, ça l'est complètement. Et là, c'est problématique parce que je crois que ce qu'on a du mal à se projeter en France quand on est jeune, c'est que il y a des pays où les règles sont appliquées et il n'y a pas vraiment moyen de discuter ou de dire oui, mais monsieur l'agent, je n'ai pas très bien compris ou c'est pas du tout comme ça. Et donc souvent les Français qui sont attirés, enfin qui peuvent être parfois accoutumés à essayer d'être le gris entre le blanc et le noir, et ben ça ne passe pas dans un pays assez anglo-saxon où la règle est la règle et la règle est pour la même pour tout le monde. Si bien que quand vous faites attraper, et ben souvent ces cases, enfin si ce n'est pas la case prison pour des petits larcins, mais vous allez être arrêté, placé en garde à vue, déféré devant un tribunal. Ils ne rigolent pas avec ces choses-là. C'est pareil. Garer sa voiture 5 minutes en se disant personne ne va le voir. Non, non, 5 minutes, c'est 4 minutes et demie de plus qu'il faut à un Australien pour vous mettre une amende. Donc, il y a certaines choses sur lesquelles ils rigolent pas. La circulation, l'alcool au volant, les larcins, le respect des règles. Et là-dessus, effectivement, c'est parfois une petite adaptation culturelle pour des jeunes Français qui étaient peut-être habitués à vivre dans un environnement soit plus souple, soit parce qu'ils se le disent, oh, je suis à l'étranger, ça compte pas. Eh bien, si ça compte, parce que si on vous met un casier judiciaire en Australie, ça peut vous empêcher de voyager dans d'autres pays dans le monde après, ou de faire de vos études au Canada, par exemple. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de conséquences qui peuvent être liées à des faits que vous allez commettre ici parce que vous dites, oh, ça compte pas. Donc voilà, le consul général à l'époque s'était effectivement prononcé à la fois pour redorer l'image des Français auprès des Australiens, qui de façon générale les voient de façon assez positive, mais là il se trouvait que c'était un petit segment de la population française qui posait ce type de problème, et à la fois pour dire aux Français établis en Australie, s'il vous plaît, allez au-devant de nos backpackers français pour leur expliquer que leurs actions pourraient avoir des conséquences, que c'est pas les vacances 24-24, qu'il faut quand même faire attention. Donc c'était assez intéressant parce que je crois que c'est le seul représentant diplomatique qui s'était permis de faire ces réflexions assez publiquement, et ce qui était plutôt bien passé finalement dans la presse locale, parce que il s'agit pas de dire non, non, les Australiens, vous avez rien compris, mes concitoyens, c'est juste des erreurs à la marge. Non, non. Là, le consul général, à l'époque, je crois que c'était Monsieur Éric Berti, demandait à ce que ce genre d'action s'arrête et faisait de la prévention. Donc tout à fait dans son rôle.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques jours pour la dernière partie de cette mini-série consacrée à l'histoire du programme Vacances-Travail. On s'intéressera dans cette toute dernière partie aux dernières innovations liées à ce visa, toujours très populaire auprès des jeunes du monde entier. À très bientôt!
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
A new SBS music station is here.
SBS Pop Euro.
Filled with Eurovision hits non-stop.
You want more?
The hits you know and the hits you'll want to know.
On DAB Radio, online,
the SBS Audio app
and SBS On Demand.